about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, Clémentine Golsan qui parle alors que c'est pas encore à elle, Christophe Comte parce qu'elle blague avec lui, Olivier Lame lui est studieux, comme toujours. C'est une dispute d'un genre un peu particulier ce soir puisque le 22 mars dernier, on apprenait la mort de Scott Walker. Cette nouvelle a affecté de nombreux amateurs de musique à travers le monde. Il m'a semblé que l'écho de cette disparition était bien faible par rapport à l'importance de cet artiste. La raison elle est simple, Scott Walker était vénéré par nombre de très grands artistes, David Bowie en tête, il était peu connu, finalement, du grand public. Cette émission a donc pour but de mieux faire connaître l'œuvre que nous a laissée Scott Walker. Commençons par le commencement et la naissance de Noel Scott Engel le 9 janvier 1943 à Hamilton, Ohio, aux États-Unis. Il va créer en 1964 avec Gary Leeds et John Moss, deux autres Américains, le groupe The Walker Brothers, les trois faux frères changeant donc pour l'occasion de patronyme pour celui de Walker. Trois albums et quatre ans plus tard, le groupe se dissout, se reformera brièvement de 76 à 78. À partir de 1967, Scott Walker, lui, a débuté une carrière solo, signant l'album donc inaugural Scott, suivi en 68 et 69 de Scott 2, Scott 3 et Scott 4. D'autres albums vont suivre régulièrement jusqu'en 74, puis il faudra attendre 1984 pour le suivant et 11 ans pour celui d'après, Tilt, qui marquera, nous en parlerons, une véritable bascule. 11 ans encore avant l'album de Drift en 2006, puis l'ultime solo, Bish Bosh, en 2012. Il y a aussi, on va en parler, de nombreuses collaborations, et notamment pour des musiques de films. Alors, je rembobine à nouveau. Clémentine Golsan, on va voir que vous êtes particulièrement sensible au Scott des débuts, y compris celui des Walker Brothers. Avant de nous dire pourquoi, on va écouter une chanson extraite de Scott 2, sortie donc en 1968, The Amorous Humphrey Plug.
Hello, Mr. Big Shot. Say, you're looking smart. I've had a tiring day. I took the kids along to the park. You've become a stranger. Every night with the boys, got a new suit. That old smile's come back, and I kiss the children goodnight, and I slip away on the newly waxed floor. I've become a giant. I fill every street. I dwarf the rooftops. I hunchback the moon. Stars dance at my feet. Leave it all behind me. Screaming kids on my knee and the telly swallowing me, and the neighbor shouting next door, and the subway trembling the roller skate floor. I see the buildings blazing with moonlight, enchanting way, their very eyes seem to suck you in with their laughter. They seem to say, you're all right now, so stop a while behind our smile. shining way. Oh, to die of kisses, ecstasies and charms, pavements of poets will write that I died in nine angels' arms, and they all were smiling, still seductive as sin in their eyes, the man I had been, no more hard luck stories to wear, nothing left to give, why the hell should I care? Anno's my smile and Mary's my shadow, enchanting way, and with the cellophane sighs, the lean of the candles begs me to stay. You're all right now, so stop a while behind our smile. In Channing Way.
Voilà pour débuter cette spéciale Scott Walker, un morceau qui a donc 51 ans, 1968. Clémentine Goldstein, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce Scott Walker du début? Parce qu'on va voir que les choses ont pas mal bougé par la suite.
En fait... Moi, j'adore la pop et j'adore la pop des années 60. Et du coup, je trouve que cette manière dont les Walker Brothers ont eu, qui ont été vraiment, c'est un boys band qui a été formé. Personne s'appelait Walker, personne n'était frère. C'est un boys band qui a été complètement fabriqué. Et je trouve que dès les tout débuts de leurs apparitions, il y a à la fois une manière de se fondre dans le moule de ce que c'est que le format pop, les filles qui crient, les petites ritournelles et tout ça. Et en même temps, une manière très tôt de pervertir ce format et d'y influer comme ça une sorte d'étrangeté un peu bizarre qui tient beaucoup, je pense, à la voix de Scott Walker au moment où il se met à chanter. Et puis, par ailleurs, il commence aussi en faisant des reprises de groupes que j'adore, des reprises des Everly Brothers, de Frankie Valli, de Burt Bacharach. Et cette manière, de la même manière que les premiers albums des Stones reprenaient beaucoup de choses, cette manière pour moi dont des artistes que j'aime dialoguent, ça m'intéresse toujours. Donc en fait, le Scott des tout débuts, qui est effectivement très accessible, j'ai pas honte de le lire, je l'aime. Ouais. Aussi.
Je l'aime aussi. Christophe Comte, Olivier Lame, vous avez co-signé l'article suivant le décès, l'annonce de ce décès, voilà, qu'on n'attendait évidemment pas dans les colonnes de Libération. Et vous revenez, alors, quand c'est écrit à deux mains et non pas à quatre, hein, parce qu'a priori, vous n'êtes pas tous deux ambidextres. Bon, peut-être, là, ce serait à quatre mains.
On tape à deux mains.
On tape à deux mains, oui.
Ah, mais non, mais je vous imagine avec une plume d'oie.
Les petites dactylos.
Donc, rédigé à quatre mains, alors vous avez raison. Cette carrière anglaise quand même des Walker Brothers, elle est assez incroyable parce que c'est quand même des Américains qui vont gagner le cœur de Londres. C'est Christophe Comte qui va
répondre là-dessus. Il y en a beaucoup, oui, il y en a quelques-uns qui ont essayé de faire
ça. Ils ont vraiment réussi.
Et eux ont vraiment réussi par accident. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça d'assez miraculeux. Parce que Scott Walker, avant les Walker Brothers, avait déjà une carrière à la
Broadway.
Fois instrumentiste aussi. De studio, il était bassiste. Et il chantait aussi, il y a énormément d'enregistrements des débuts, il n'a pas du tout la même voix, il n'a pas mué, il est tout jeune, il a 16-17 ans, dans un registre un peu doo-wop, un peu près Roy Orbison, et puis la rencontre avec les deux autres va faire qu'ils vont coaguler un truc qui ne ressemble à rien, parce qu'ils sont quand même, quand ils arrivent en Angleterre pour une tournée, ils ont déjà ces morceaux mais qui sont la plupart du temps des reprises de Burt Bacharach et compagnie, et ça marche sur un malentendu parce que c'est pas tellement la musique c'est pas la musique du Swinging London, c'est pas les Stones, c'est même pas les Beatles, c'est quand même très grandiloquent avec beaucoup de cordes, ça peut se rapprocher des productions de Phil Spector mais en plus En plus maussade, on va dire. Et bizarrement, ça marche parce qu'il y a quelque chose de très romantique. Et c'est vrai que le passage de Scott Walker comme chanteur principal change vraiment la configuration du groupe et son succès. Donc là, on est dans ce genre de groupe qui fonctionne dans un contexte qui est pas forcément le leur, et c'est peut-être le fait qu'ils aient été téléportés comme ça en Angleterre, et leur singularité a fait que ça a marché au-delà des espérances. Et ce qui a causé tous les tourments de Scott Walker.
Alors, ce qui a causé, oui, parce qu'on va en parler tout au long de cette heure, j'imagine, Olivier Lem, sur ce tempérament, ou cette tristesse, ou cet aspect, cette dimension un peu beaucoup dépressive de Scott Walker. Est-ce qu'on l'entend déjà, selon vous, dans les Walker Brothers et en tout cas dans les premiers albums Scott?
Ah non, ses premiers albums, c'est clair, mais on va attribuer ça, on va dire, à son obsession artistique. C'est drôle, le premier album, Scott. Non, parce que...
C'est parce comme que, Alien.
Non, parce que dans ma tête, c'est comme des codes, Scott Ford, Scott... Enfin bref, il y a un groupe qui s'appelle Scott Ford, d'ailleurs, un groupe écossais, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que je voulais dire? Il part dans les notes de pochette, il parle tout de suite de l'obsession. C'est un artiste tout de suite qui a voulu faire du grand art avec la pop ou avec autre chose, tout en même temps, parce que moi je poserais pas vraiment, en fait, même les Walker Brothers, c'est pas pour rien s'il est revenu, c'est parce qu'il avait besoin d'argent à la fin des années 70, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé selon lui. Moi je pense que si le groupe a marché, c'est aussi parce qu'il y avait des résidus de proto-pop, de toute la musique populaire d'après-guerre au Royaume-Uni, qui était quelque chose dont on se souvient pas bien aujourd'hui, mais si on regarde les charts depuis la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60, à côté des Beatles, des Stones, de Dylan et des choses importées des États-Unis, il y a énormément de choses, de chanteurs, chanteurs de charme, etc., qui plaisaient un peu à toute la génération. Et je pense qu'ils étaient entre les deux, avec effectivement ce truc qui était, je pense, une spécificité dans ce qui marchait au Royaume-Uni, qui était effectivement la chose un peu mièvre, mais pervertie de l'intérieur. Et lui, évidemment, sa voix, qui était beaucoup trop intense pour chanter ça.
Alors justement, à propos de voix, d'intensité, de crooner aussi, Christophe Comte a suggéré en préparant cette émission qu'on fasse un comparatif, qui va être vite fait à mon avis, entre Scott Walker et Frank Sinatra. Mais pour mieux goûter votre parole à venir, on va d'abord écouter This Way Mary. C'est une chanson extraite de la bande originale du film Mary, Queen of Scots. C'est une musique qui est composée par John Barry.
This way, Mary, come, Mary, share the world with me. Make this moment our moment and our memory. This way, Mary, come, Mary, let me warm your heart. Take this love I bring you, and then let forever start. This way, Mary, come, Mary, while the sun is high. Make this summer the summer that refused to die. This way, Mary, run, Mary, our love had to be. So take my hand and walk this way with me. This way, Mary, come, Mary, our love has to be. So take my hand and walk this way.
This Way Mary. Scott Walker versus Frank Sinatra, Christophe Comte.
Alors, bon, ça, c'est vu de loin, hein, mais en même temps, dans l'évolution de Sinatra, dans ces années-là, les années importantes de Scott Walker, première période, Sinatra, peut-être au contact de Lee Hazlewood, avait quand même opéré, au milieu des années 60, un virage vers la pop. Notamment avec un album qui s'appelle Cycles, où il reprend beaucoup de choses qui sont contemporaines de l'époque. Ensuite, tous les albums qu'il y a eu jusqu'à ce chef-d'œuvre qui s'appelle Watertown de 71, où là, il est avec les musiciens des Four Seasons, Bob Godio. On est un peu dans la même famille d'esprit, on va dire, les basses assez rondes, les cordes, etc. Et là, à la même époque, Scott Walker a deux visages. Il a un visage de compositeur, d'auteur, et un visage d'interprète qui est quand même à 50% le gros de son business, puisqu'il fait même un show à la télé à un moment. Et il y a un album qui sort avec des chansons de Aznavour, de Gilbert Bécaud, de gens comme ça. Il reprend un peu le tout venant. Il a une voix qui s'adapte à tout. Et Sinatra, à l'époque, est exactement pareil. Il chante les mêmes chansons, c'est le même répertoire. Chez Sinatra, il y a un côté latin qu'il n'y a pas chez Scott Walker. C'est la différence, elle se situe sans doute là. Et puis c'est pas la même histoire, c'est pas la même longévité et c'est pas le même contexte. Mais de loin, moi je me souviens d'une soirée assez éprouvante où j'ai fait écouter Scott Walker à des gens qui ne connaissaient pas cette soirée qui était censée être un peu festive.
Et vous avez perdu tous vos amis ce soir-là.
Et c'était une compilation qui durait assez longtemps avec beaucoup de titres. Et les gens étaient polis, donc ils n'osaient pas dire. Ouais. Mais je pense que la seule réflexion que quelqu'un a pu avoir face à cette musique totalement inconnue et un peu lugubre, c'était « ça ressemble à Sinatra ». Mais il y a un peu de ça.
Oui, bien sûr.
Des chanteurs à l'époque avec ce coffre-là, cette profondeur, il n'y en a pas tant que ça. Sinatra, c'est vraiment le type qui est capable de tout chanter avec une diction parfaite, des mots qui tombent pile, c'est presque un robot. Là, on est dans un cas de figure de quelqu'un qui a des sentiments et des ressentiments beaucoup plus forts, donc c'est très différent. Mais je pense qu'il y a quelque chose à l'époque, en tout cas dans l'interprétation, quand on est une voix de voice, Sinatra l'était officiellement, dans l'underground, d'une certaine manière, Scott Walker, c'est The Voice. On peut tout chanter. Et c'est un peu ça qui les rapproche à cette période-là.
Et c'est cette façon d'interpréter aussi qui a influencé beaucoup, beaucoup de gens, qui a marqué beaucoup de gens. J'évoquais tout à l'heure le nom de David Bowie. C'est vrai que on va dire que c'est quand même le plus célèbre à avoir payé son tribut. Et il l'a très souvent dit.
Plusieurs reprises,
Très souvent dit. On verra comment il l'a un peu sorti du trou à la fin des années 90. Comment il a un peu relancé Scott Walker. Mais cette dimension d'interprète qui a marqué à ce point-là, Clémentine Goldsall.
Oui, moi, c'est en fait ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les reprises, c'est que de la même manière que les reprises ont fait le pont vers l'arrière, pour moi ensuite Scott Walker, il y a un pont qui se fait vers l'avant de ma génération à moi et des artistes que j'aime moi et qui l'ont regardé lui, c'est-à-dire Jarvis Cocker dit que c'est le plus grand chanteur de tous les temps et il a produit le dernier album de Pulp, We Love Life, les Last Shadow Puppets que moi j'adore, ce que je considère Alex Turner comme un des génies vivants de la musique. S'en sont réclamés un petit peu, peut-être lourdement, mais en tout cas, on fait venir beaucoup de gens à la musique de Scott Walker, je pense. Et je trouve ça, et je vous disais, là, je me demande même si Julian Casablancas des Strokes, je crois pas qu'il l'ait jamais vraiment dit, mais en fait, là, en préparant l'émission, je me disais, mais en fait, évidemment que lui, c'est ce à quoi il aspirait. Cette sorte de grandiloquence très, qui a quelque chose d'à la fois très sensible et très viril. Et donc, ça m'émeut beaucoup, moi, ça, cette manière d'influencer des interprètes à travers les âges sans frontières aucune, parce qu'il est le chanteur ultime, c'est ce qu'on disait.
Et puis pour aussi faire le pont vers l'arrière côté Scott Walker, il faut parler des reprises de Jacques Brel et de l'importance que Jacques Brel a eue sur Scott Walker, Olivier Lama.
Immense, c'était qu'il a découvert un peu par hasard, très tard, vraiment, je crois une amie lui a fait découvrir. Et
une Playboy Bunny allemande.
Voilà, histoire dingue. Et moi, pour raconter mon histoire personnelle, moi, personne n'écoutait Brel à la maison. Moi, j'ai découvert Brel avec les Marquises, enfin, j'avais pas du tout. Et évidemment, il y avait des trucs à la télé. Mais du coup, il y a beaucoup de chansons de Brel que j'ai découvert d'abord, pas Ne me quitte pas, mais que j'ai j'ai découvert d'abord par chanté par Scott Walker, et du coup ça a été évidemment un biais un peu bizarre.
Hein. C'est comme quoi.
On est français, mais je pense qu'il a très très bien chanté Brel, parce qu'il l'a très très bien adapté d'abord, et ensuite parce qu'il se l'est approprié d'une manière, je veux dire, même quand
avec
il
des
chante,
textes
il
de Mort Schumann.
Pas,
rappelons aussi ce lien
c'est Andrew Loganham, après la Bonnie Girl, c'est Andrew Loganham qui lui a fait découvrir les adaptations de Mort Schumann. Pour d'autres gens, pas pour lui. Et là, d'un coup, il a senti que c'était jouable de pouvoir chanter, parce que les versions françaises, je pense que ça lui paraissait un peu curieux. Et donc là, il y a une grande tradition qui va jusqu'à Marc Almond, qui a refait lui-même un album de reprise de Brel. Et Marc Almond, qui était en concert 5 jours après la mort de Scott Walker, sur scène, c'est un peu la même chose. Il chante tout, quoi. Marc Almond, il chante du Scott Walker, pour le coup. Il chante du Brel, et il chante du Aznavour aussi. Mmh. Enfin, on retrouve des ramifications de toute cette famille, finalement, qui est une famille qui, à travers le temps, comme ça, perdure, à travers ces gens-là qui vénèrent quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais sans doute une certaine idée de la chanson.
Si je reviens vers Brel, Olivier Lam, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'interprétation mélodramatique. Il y a quand même quelque chose du conteur qui passe de Brel vers Scott Walker et vers d'autres ensuite.
On parlait d'intensité. C'est vrai que comparé à Brel, c'est pas du tout la même forme d'intensité. C'est une intensité qui est beaucoup plus.
Mais ça raconte des histoires.
Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va parler de peinture après. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont ce que fait Walker, qui est à la fois entre vraiment un premier degré, côté viscéral, voilà, le cliché du chanteur qui souffre, etc., et quelque chose de totalement exagéré, outré, presque grotesque. Ça, je parle de peinture. Il y a vraiment ce côté, il le ramène à quelque chose ce qu'il fait avec son, parce que l'émotion chez Scott Walker, elle est dans les graves, elle est dans ce qu'il fait avec son vibrato dans les graves, ce qui est pas du tout le cas de Brel. Du coup, il le ramène à quelque chose de beaucoup plus intellectuel et froid, et en même temps, il place l'émotion près des profondeurs, enfin, je sais pas comment dire, mais de toute façon, c'est un chanteur terrien, Walker. C'est pas seulement parce que c'est un baryton, c'est vraiment, c'est un chanteur des profondeurs qui arrive à vous donner l'impression que sa voix, elle va puiser beaucoup plus loin que dans son corps.
Voilà. Puiser plus loin aussi pour un Américain, c'est quand même aussi le tropisme européen. Parce qu'on parle de Jacques Brel, mais c'est très présent aussi, Clémentine Goldsall, cet intérêt pour l'Europe, ça passe par le cinéma, par la musique, par beaucoup de choses pour lui.
Oui, je crois qu'il a découvert quand il s'est installé à New York quand il était au sortir de l'adolescence. Corrigez-moi si je me trompe, mais il allait beaucoup au cinéma et il a découvert tout le cinéma européen, donc Godard, Truffaut évidemment, mais aussi Bergman, Fellini, et puis il lisait Sartre et Camus comme tous les petits Américains. Ben non, mais ouais. Et je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et à mon sens, c'est une porte vers l'imaginaire européen, une idée du romantisme européen. Je me dis que si vous êtes un gamin à 17 ans à la fin des années 50 à New York et que vous voyez les films de Godard, ce qui vous vient, c'est des grands élans du cœur et une sorte de... Et je pense que ça se ressent, cette idée du romantisme. Et par ailleurs, ensuite, dans musicalement, pour moi, il y a une filiation très claire, notamment dans ses musiques de films, avec John Barry, mais et avec évidemment les grands compositeurs de films français qui, eux, remontent un petit peu à Debussy, à une tradition aussi de la musique de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle français.
Barry, Delerue, Ravel, Debussy.
Oui, je crois, oui.
Et Wagner aussi, on en parlera tout à l'heure.
Wagner, Christophe Comte, sur cette touche européenne.
Oui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Alors, c'est marrant, parce que le cinéma de Godard, notamment, était très influencé par le cinéma américain, donc c'est une sorte de retour.
C'est comme Tarantino qui regarde Melville, qui regarde
exactement.
Les films noirs.
Il y a vraiment ça, et je trouve que Scott Walker, qui était quand même très éveillé, parce que c'est très très jeune qu'il découvre ça, notamment Bergman, et il en fait quelque chose. Il y a quelque chose, il y a même un morceau qui s'appelle Le Septième Sceau, je sais pas comment.
On l'a passé lendemain de sa disparition, voilà, Seven Seal.
Seven Seal, voilà, et donc c'est vraiment ancré profondément en lui. Camus, tout ça, c'est pas que des citations, c'est très profond. Le côté existentiel de Scott Walker, on l'entend dans son interprétation aussi. On sent que c'est pas un chanteur d'entertainment, même si certains ont voulu le pousser vers ça. Il y a quelque chose de chez lui, l'image qu'il a, l'image qui se donne même lui quand il commence sa carrière solo, elle est étrange. Il a des lunettes noires. Les pochettes sont quand même assez lugubres. Pour l'époque, c'est on est en plein hippie. Oui, alors oui. Il déteste les hippies, donc du coup, il se mure dans quelque chose de très différent. C'est un ovni quand même à la fin des années 60, Scott Walker. Musicalement, physiquement, il est immense. Il fait 2 mètres. Il a rien à voir avec les autres, avec ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là. Il se mure à l'intérieur de cette musique et il sadise des arrangeurs jusqu'à les rendre fous pour faire des sons de clochettes, de machin. Enfin, c'est incroyable. Quand on réécoute ça aujourd'hui, ça paraît, c'est un chantier immense dans la musique.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
On poursuit cette dispute consacrée ce soir à Scott Walker pour essayer de faire partager notre intérêt pour ce musicien récemment disparu, il y a quelques semaines, trop méconnu à mon goût. Alors, on a déjà parlé d'une première période, on pourra en distinguer combien ? 3 à mon sens, mais bon, au moins 2. Il y a une bascule.
Dans les tout débuts, il y en a au moins 5 ou 6.
Oui, c'est vrai. Si on commence vraiment loin. En tout cas, il y a quand même vraiment une bascule qui va produire comme l'antithèse de la première période. Il y a des années aussi pénibles quand même où il semble un peu perdu, ces années 70, entre ce que le public attend de lui, ce que lui il a envie de faire.
Il fait quand même. Il n'y a plus de public à ce moment-là.
Voilà. Il réussit à ne plus du tout en avoir. Il y a une bascule. Avec Night Flights, peut-être, pour reprise par Bowie beaucoup plus tard. Est-ce que.
Cet album, Night Flights,
ouais.
Je crois que.
Olivier,
qui part moins un album, en fait, qui est plus une compilation des 3 Walker Brothers, en vérité, puisque chacun est venu avec 3-4 chansons, qui est un disque très particulier, parce qu'effectivement, qui survient, qui est le deuxième disque sorti par les Walker Brothers après leur reformation. Mmh. Après, ils ont fait une espèce de petit tube qui les a un peu remis en selle, et surtout leur. Un peu garni le compte en banque, je pense, et ils se sont rendus compte à ce moment-là que le label, en fait, qui les hébergeait, dont le nom m'échappe là, qui était une petite major britannique de l'époque, était en train d'aller faire faillite. Mmh. Ils leur ont dit, faites ce que vous voulez, on n'est même pas sûr que le disque arrive en magasin. Donc là, Scott Walker a décidé de jouer un peu le tout pour le tout, et il a fait 3 chansons parmi ces 3, on va dire, qui sont un peu 3 proto, 3 prototypes de ce qu'il allait faire par la suite, notamment The Electrician, qui est une espèce de petite symphonie noire absolument incroyable qui annonce la musique industrielle, la new wave, etc. Enfin, la new wave a commencé, on était déjà dans l'ambiance post-punk, mais voilà, venant de la part de cette Tom qui avait chanté des bluettes et qui l'en chantait d'ailleurs pas si longtemps auparavant, parce qu'au milieu des années 70 il a fait des disques de reprise qui font partie de disques donc lui-même il s'est beaucoup battu pour qu'il soit jamais réédité sur lequel il y a des belles choses d'ailleurs, si on avait un peu de temps on le ferait, on en parlerait, mais voilà, et du coup c'est pas une résurrection, mais en tout cas c'est une décharge électrique pour beaucoup de gens, notamment David Bowie.
Mais va suivre donc cet album Tilt en 1995, est-ce qu'il porte bien son nom ? Oui, c'est un grand tournant en tout cas.
Il y a eu un disque qui est le disque le plus mal vendu de l'histoire de.
Oui, c'est le plus grand flop de l'histoire de Virgin Records, qui est Climate of Hunter en 1984. Et qui effectivement est un disque très difficile pour l'époque à appréhender, parce que je crois, alors même si Julian Cope avait publié cette compilation de Godlike Scott Walker en 82, je crois, le nom de Scott Walker avait totalement disparu à l'époque. Et il est revenu, je m'en suis souvenu il n'y a pas très longtemps, au début des années 90. C'est là où ont été réédités vraiment en CD les 4 premiers albums solo. Et là, tout le monde l'a redécouvert. Mais entre cette période, début des années 80 et le début des années 90, Scott Walker n'apparaît nulle part. Mmh. Sauf Julian Cope, qui est quand même un peu un ahuri et qui a tout l'art de citer des gens que personne ne connaît. Et donc, cet album Climate of Hunter qui arrive en 84, tout le monde s'en fout. Mais vraiment, c'est-à-dire que je ne me souviens pas à l'époque une quelconque chronique de cet album dans la presse. Et c'est un disque qui est très, très difficile à appréhender, mais qui en même temps annonce totalement le Scott Walker de la suite, qui sera sporadique. Mais...
Alors, la suite, non, parce que j'y viens, oui, parce que, hélas, on n'a pas toute la soirée, hein, et qu'on veut quand même encore écouter de la musique. Et quelle musique ? L'album titre, donc, 95. Avant d'en parler, justement, un extrait. On verra combien de temps on en gardera. The Farmer in the City, un extrait, parce qu'il est un petit peu long. Le micro pour continuer à parler de Scott Walker, dont on entend ici un morceau extrait de Tilt, l'album de 1995, Farmer in the City. Clémentine Goldstein, vous êtes moins sensible à cette période, mais il y a un mot qui est revenu presque dans tous les de la part de vous trois pour préparer cette émission, c'est le mot d'abîme.
Oui, en fait... oui, ça me touche beaucoup moins intimement parce que moi, j'ai tendance à être assez attachée aux mélodies. Donc là, ça part quand même dans quelque chose de beaucoup plus expérimental qui parle moins à mon cœur. Ensuite, connaissant la musique que Scott Walker a fait avant, le parcours qu'on vient d'évoquer et là d'où il vient, moi, ça m'émeut énormément de voir un homme détruire son effigie. et aller à rebours de l'image publique qu'on avait de lui, et en même temps peut-être à la rencontre de cet abîme qui était en lui. Et ça me touche toujours, mais je trouve qu'il y a eu ça à un moment chez Lou Reed, d'une manière de s'autodétruire. Il y a eu ça chez Dylan. Je pense que dans les carrières comme ça de ces hommes qui durent et qui vivent la musique avec intensité, vient un moment où il y a parfois un appétit de destruction, pour citer les Guns N' Roses. un appétit de destruction que je trouve émouvant, en fait. Cette manière de se rendre inaudible et problématique petit à petit. Là, le morceau qu'on a entendu, c'est encore audible, mais à mesure ensuite qu'on avance. Non, mais je dis inaudible, c'est pas.
Oui, là, mais consterné par la référence à Guns N' Roses, c'est ce que vous dites. Moi, je pense que c'est un appétit de construction. Oui. Voyez-vous. Alors,
oui, parce que, reconstruction, parce que de reconstruction. Non, mais on parle de destruction. Les quatre albums qui ont suivi sont une. Ils creusent un sillon très très profond. Et par ailleurs, ce qu'il construit là est vraiment une forme, enfin une œuvre qui est qui est immense, qui est très très profonde, très grande, qui est liée, je pense, à celle qu'il a fondée dans les années 60 et qui est liée de vraiment beaucoup de manières. Là, ce qu'il y a, c'est que ça explose parce que c'est une œuvre qui a l'air de contenir beaucoup d'autres, qui est sur un registre effectivement qui est au-delà de beaucoup de choses, qui est au-delà de la, on va dire, de la binarité, de dissonance, consonance, qui est au-delà des genres. On est entre le leader, l'opéra, encore la pop, encore la chanson. C'est une musique de timbre et de mots emmêlés qui est extrêmement travaillée, extrêmement précise. Il passait jusqu'à 10 ans par morceau sur certains morceaux de The Drift ou de Beach Boys. Il en a beaucoup parlé avec. Au combien de douleur
pour faire plaisir ni par exagération, visiblement.
Pour revenir sur l'idée d'une destruction de l'effigie, je pense que l'effigie à ce moment-là, ils s'en fichaient complètement, parce que je pense que il avait quelque chose de, on parlait de sa culture, sa sensibilité à la culture européenne. Il a jamais retourné habiter aux États-Unis. Il est resté en Europe toute sa vie. Il disait qu'il regardait les États-Unis avec les yeux d'un Européen. Et je pense qu'il y a quelque chose de métaphysique, effectivement, y compris jusque dans les drames européens du XXe siècle. Il est obsédé par la figure des dictateurs, obsédé par la littérature, la poésie, obsédé par l'avant-garde, une certaine avant-garde. Moi, j'entends beaucoup le Ligeti du Grand Macabre, évidemment, Scalzi, et aussi la musique industrielle, aussi le métal. Je pense que alors il faisait une musique qui était dans sa forme totalement unique, elle n'empruntait à aucun genre, mais je pense que dans l'intention de figurer certaines formes de chaos, de haine, d'explosion de beauté, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais Wagner, c'est qu'il y a une manière de mélanger le maelstrom et la lumière d'un coup qui arrive par des cuivres, par des choses, et de l'apposer de manière très brutale. Je pense qu'il y a vraiment une pulsion d'art qui est très 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 forte, et c'est des très grandes très grandes œuvres musicales, il me semble.
Voilà. Construction, reconstruction, destruction, Christophe Comte.
Ce qui est incroyable, oui et non, puisque quand on suit un peu le cheminement de ce personnage, c'est que ce qu'il a accepté de faire à un moment, c'est-à-dire interprète de tout et de n'importe quoi, ensuite il s'est totalement épargner ça. Il aurait très bien pu faire un disque avec Jarvis Cocker, Neil Annon, tous les gens lui auraient écrit des chansons, comme ça a fait Tom Jones, par exemple. Bon, Tom Jones, dans les années 60, c'était pas Scott Walker, mais sur un malentendu, on pouvait les mettre dans la même famille. Ces chanteurs dont parlait Olivier, qui étaient des chanteurs de charme, qui aimaient bien les vieilles dames, ou les pas très vieilles d'ailleurs. Et Scott Walker, c'était ça au départ. Et là, quand on écoute ça, alors il y a une phrase que j'adore dans le papier café fait François Gorin dans Télérama, il dit c'est Justin Bieber qui est devenu Arvo Part. Si on résume la carrière de Scott Walker, on en est là, quoi. Et dans les années où il réapparaît, il y avait tout. Il est c'est pas encore chez 4AD, mais après il signe chez 4AD. Il avait tous les ingrédients pour pouvoir s'assurer une retraite tranquille. Or, il fait des disques assez impénétrables, sauf pour les gens qui veulent le suivre dans sa conception de la musique qui est exigeante et sans concession, justement. Donc là, évidemment, ça donne des disques admirables qu'on n'emmène pas forcément à la plage, hein, faut bien dire ce qui est. Mais moi j'adore The Drift, Big Bosch sont des disques que j'ai écoutés, à l'époque, et vraiment avec un sentiment d'avoir une œuvre. Et quand un artiste arrive à faire ça 50 ans après ses débuts, c'est rare. Quand même.
Mais vous croyez qu'il aurait été aussi loin si ça n'avait été en réaction à de la frustration accumulée dans les premières années?
Je sais pas, je vais pas faire de psychanalyse au comptoir, mais je sais rien.
C'est mon tropisme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce côté noir, façon un peu Goya de la fin, c'est déjà, je trouve, en germe dans ses premières chansons. Il y a quand même, il chantait The Seven Seals, il chantait la mort, il chantait ces choses-là, d'une manière, dans une forme différente, mais par ailleurs, pas si différente, parce que c'est quand même orchestral, c'est un travail sur le timbre très précis, il est passé d'un type d'arrangement à un autre, mais on est quand même dans une vision totale, visuelle, wagnérienne de l'art, quand même, des chansons qui sont des mondes dans lesquels se perdent, comme dans des grandes œuvres.
Il y a des mondes minimaux aussi, vous qui avez beaucoup écouté The Drift, Christophe Comte, on va écouter un extrait de ce 11e album studio qui était sorti en 2006, très minimal, Lover Loves.
Cornea's mystic color high. Psst, 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 psst. Motionless for seconds at a time. Hell, it's cold in another cold. Psst, psst, psst. And everything within reach. This is a waltz for a dodo, a samba for Bambi, gavotte for the Kaiser, bolero for boys, a reel for Red Rosa, a polka for Tintin. Cornea's misted color high. Seconds at a time. Psst, psst, psst. Psst, psst. One hand that is cold in another cold. Psst, psst, psst. And everything within reach.
Très loin des Walker Brothers quand même, avec ce morceau Lover's Love, et c'était bien de pouvoir entendre de façon presque aussi pure la voix de Scott Walker. On a évoqué pas mal de choses sur lui, on n'a pas été au plus près des paroles de ses chansons à lui. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
C'est Olivier Dame qui se
jette sur le micro.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que quasiment dans tous les, il y a les paroles de ces disques, enfin, à l'intérieur des objets, et il y a toujours des notes qui expliquent telle chanson, tel refrain est une comptine de telle tribu amérindienne, etc. Et parce qu'effectivement, c'est des petites encyclopédies en soi, dans lesquelles il va d'un endroit à d'autre, dans lequel il peut mélanger Elvis Presley, Staline, ou Ceausescu, enfin, vraiment faire des... Il y a quand même ce côté assez très, très libre, et en même temps, la chanson qu'on vient d'écouter, par exemple, qui est en gros une histoire d'amour du point de vue d'un cadavre, pour ce que j'en comprends, et qui est, voilà, qui dans lequel
on a compris la même chose.
De Bambi, de Jodo, de Joseph Beuys. Et aussi, je pense qu'il s'amusait avec les mots. Mais il était d'une. Il travaillait sur les paroles de sa chanson comme un poète totalement maniaque. Il disait vraiment, il voulait que chaque mot résonne dans l'espace par rapport à la musique, etc. Et je pense que le choix de chaque nom propre, de chaque évocation, était vraiment. C'est des petites encyclopédies postmodernes très très précises et évidemment assez opaques.
Christophe Comte.
Beaucoup d'allusions à la peinture aussi. Donc Goya, comme l'a dit Bosch, là, sur Big Bosch. Il y a quelque chose de.
Il s'est mis à la peinture à un moment donné. L'art conceptuel l'a beaucoup intéressé.
Il a pris des cours de peinture.
Non, je pense que la clé de tout ça, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est l'imprégnation des drames européens. Là, on retrouve ça quand même. On retrouve ça aussi dans les œuvres qui l'inspirent aussi. Donc il y a une forme de cohésion dans tout ça. C'est là où le paradoxe de Scott Walker est quand même peut-être le plus étrange de la musique populaire. C'est quelqu'un qui a eu des tubes, qui a eu des fans, des gens qui se sont arrachés, qui ont essayé d'arracher leurs chemises. Il paraît même qu'ils portaient des casques à un moment parce qu'on leur arrachait les mèches de cheveux. Et les fans en Irlande retournaient la voiture dans laquelle ils étaient. Enfin, c'était une hystérie totale. Et quelqu'un
ça l'a poussé, paraît-il, à ouvrir le gaz aussi. Il a été sauvé par un fan. Dès 66, tellement il ne supportait pas ça, Scott Walker.
Exactement. Et on comprend pourquoi ? Parce que lui tendait vers ça. Et c'est vrai que la pop peut détourner de ses chemins, peut-être qu'il s'imaginait effectivement Bergman ou peintre ou je ne sais pas. Et puis il a fait de la chanson. Il y est venu volontairement, mais la chanson devait forcément être un territoire d'expérience plus large que celui de la pop. Et on l'entend sur ces disques-là. Alors les textes, moi j'avoue que je ne suis pas non plus un exégète des textes de Scott Walker, ni de personne d'ailleurs. Mais voilà, là, on comprend quand même qu'il n'y a pas. Enfin, ça ne parle pas de choses très fleur bleue.
Mais il y a de l'humour aussi quand même. Il utilise des formules sur lesquelles il revient. Il parle de se faire casser la gueule, etc. Il y a une gourmandise quand même d'aller un peu dans la chose un peu crade, je sais pas comment dire, pour un vieil homme, voilà, si digne. Il y a ce côté très je pense qu'il y avait vraiment il y avait de l'humour, enfin il y avait de quand il
met des bruits de Clémentine Gonzalez avec ce morceau et moi aussi un peu
sur Beach Bosch. C'est évidemment c'est une forme de c'est pas de la provocation, mais je pense que c'est une forme de liberté voilà proclamée, et aussi d'humour. Voilà.
Il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi toujours ces choix assez étonnants. Le dernier extrait musical qu'on va pouvoir écouter ce soir, ce sera aussi une réponse aux lecteurs de Libération qui chaque semaine lisent la question, est-ce que vous savez ce que c'est que le drone métal? Du drone métal, on a déjà parlé ici et diffusé dans la dispute quand on a parlé des disques de Sun. Ça s'écrit Sun Home, on dit Sun, c'est le groupe de Stéphane O'Malley.
Et Sun, Greg Anderson.
Et a enregistré un disque en collaboration avec Scott Walker, sorti en 2014, donc je fais mes maths à peu près bien. Scott Walker, il avait 71 ans au moment de l'enregistrement et toujours le goût de l'aventure musicale. Donc on va écouter un extrait de Brando. Le morceau dure un peu plus de 8 minutes, il nous accompagnera jusqu'à la fin de cette émission, mais on reparlera. Et vraiment, soyez attentifs à cette voix apparemment si jeune de Scott Walker.
Across the wild Missouri, never enough, no, never enough.
En écoutant ce morceau, Brando, donc daté de 2014, on se demandait peut-être aussi alors qui étaient les vrais héritiers de Scott Walker, du moins dans l'interprétation. Ça vous semble être qui est le plus proche, Olivier Lam?
Bah, ils ont les gens qui l'imitent, je sais pas si c'est ça.
Je parle d'héritage.
Il y a Anthony, anciennement Anthony Johnson. Bah, moi, dans les héritiers, c'est un peu compliqué, mais c'est un groupe instrumental, mais je trouve que Sono, dans leur travail sur les profondeurs et sur les timbres et sur le, voilà, il y a peut-être quelque chose. Alors, j'avais pas trop réfléchi à la question, j'avoue. Donc là,
eh bien, voilà,
je suis un peu surpris.
À brûle pourpoint. Christophe Comte, il a eu 30 secondes de plus, le temps que vous répondiez ou pas. L'héritier.
Ça dépend de l'héritier de Scott Walker. On en a cité beaucoup. C'est vrai que Marc Almond, Neil Annon de Divine Comedy, Jarvis Cocker, tous les gens. Bah, c'est un peu les mêmes héritiers que Bowie. Alors on ne sait jamais qui a vraiment. Mais on sent qu'il y en a certains qui sont un peu dans l'imitation par moment. Mais ce qui est toujours bien, hein, Neil Annon parfois arrive à faire un très bon Scott Walker. C'est comme on dit dans un spectacle de travesti, un très bon Scott Walker. Mais il écrit aussi de très bonnes chansons. Donc c'est pas non plus. Il y a beaucoup de voix. Sur cette période-là, c'est un peu plus compliqué, je pense que. Moi, je me demandais, je faisais quand même un peu le parallèle avec un autre grand disparu de fraîche date, c'est quand même Marc Hollis de Toc Toc, qui a quand même eu, un modèle réduit, en plus court, une période, enfin, même parcours que Scott Walker. C'est assez étrange qu'il soit mort à si peu d'intervalle. Deux ermites comme ça, dont on n'avait plus de nouvelles.
Moi, d'instinct, je me dis que là, ce qu'on est en train d'écouter, les héritiers, ils sont à aller chercher du côté de la musique vraiment expérimentale, voire de l'art contemporain, quoi. Pour moi, là, ce qu'on entend là, c'est une musique de musée. Mais je dis pas du tout ça. Je dis pas du tout. Non, ouais, c'est ça. Je veux pas du tout que ça sonne. C'est pas. Je trouve ça très vivant et tout ça, mais c'est une musique de musée. On est du côté de l'expérience totale. Moi, personnellement, ça m'angoisse beaucoup parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui va d'entendre quelqu'un qui va très très mal, quoi.
Écoutons encore. Alors, il nous reste quoi, 2 minutes avant la conclusion de cette émission. J'espère qu'à cette heure, pas mal d'auditrices et d'auditeurs vont se dire « Tiens, il faut quand même que j'aille écouter ce qu'a fait ce Scott Walker. » Mais alors, par où commencer? Vous conseilleriez quel album, Clémentine Goldstein, pour commencer à découvrir Scott Walker?
Moi, Scott Four.
Scott Four, ouais, Scott 4, je traduis directement de l'anglais au français.
Scott 4, je trouve que pour moi, c'est le pic. De sa première période, donc si on a réussi à définir des périodes, ouais, c'est 1969. Ça sort la même année que Scott 3 d'ailleurs, Scott 3.
Ouais.
Et Scott 4 pour moi c'est un sommet d'orchestration. Sa voix est parfaite, les chansons sont parfaites. Je trouve que c'est, ouais, moi c'est mon album préféré de Scott Walker de loin.
Christophe Comte.
Pareil. Scott 4, Scott 3 aussi, parce qu'il y a encore du Jacques Brel, je crois, sur le 3. Ces interprétations, elles ont été réunies en 81, je crois, sur un album. Scott sings Jacques Brel. C'est étonnant d'entendre Brel comme ça. Après, oui, moi, je pense que les quatre albums des années 60 sont indépassables. 4. Après, je Tilt aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut écouter. Enfin, c'est pas une œuvre qui comporte, contrairement à celle de Sinatra, 75 albums, donc on peut quand même tous les écouter.
Il y en a 12.
Voilà, ça peut se faire facilement.
C'est pas la porte d'entrée que je vous demandais.
La porte d'entrée, je pense que Scott 3, soit Scott 4.
Olivier Lam.
Peut-être écouter Till the Band Comes In, qui est son dernier disque des années 60, ou paru en 70, je sais plus, qui est un disque dont on dit qu'il est un peu plus mineur, mais moi je trouve qu'il est presque son plus accompli dans cette, alors j'aime énormément Scott Ford, mais je trouve que Till the Band Comes In est quand même, il y a plus de reprises, il y a moins de chansons originales, qui est quand même un très très beau disque, et moi Tilt, encore et encore et encore, qui est son disque, parce que c'est un disque aussi de transition sur lequel il y a des choses très dures et aussi des choses, enfin c'est un disque vraiment, c'est un disque, comment dire, montagne russe, mais qui est
d'une une charnière, voilà.
C'est un très 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 grand disque. Moi j'aime énormément The Drift aussi. Voilà. Bon.
Donc on commence par.
On commence par Tilt, oui. Allez. Pourquoi pas, il faut plonger direct.
Plonger direct. Et écoutez Scott Walker. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, donner sa réponse, Joséphine.
La question était à quelle série culte des studios Toei, Mamoru Hosada, a-t-il participé à ses débuts en 1993? Et la réponse était Dragon Ball Z.
Ce soir, leur série Beaux-Arts Magazine a gagné sur le modèle noir de Jericho Amatis, l'exposition qui est au musée d'Orsay. Question faut-il répondre, Joséphine?
Quel artiste américain a détourné l'Olympia de Manet en 1970 pour dénoncer la ségrégation raciale aux États-Unis?
Votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gomo, Boris Pino et Joséphine Dumoulin. Réalisation Émilie Valatre, prise de son Élise. Le demain à 19h, une dispute art plastique. Nous serons avec Sarah Hilermeyer, Sally Bonne et Fabrice Bousteau à notre affiche Homer, c'est au Louvre-Lens. Chicago, foyer d'art brut à la Halle Saint-Pierre. Il y aura un coup de cœur de Sarah Hilermeyer pour l'exposition en ce moment de Lucie Stahl à la galerie Friedman Fitzpatrick. Et puis un petit salon de Lucille Gomo consacré à l'atelier des Lumières.